Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. Le président libanais Joseph Aoun a exprimé l'espoir que l'accord entre l'Iran et les États-Unis mettra un terme définitif à la guerre avec Israël et ouvrira une ère de stabilité dans son pays. Et les cours du pétrole reculent aujourd'hui après l'annonce de cet accord qui ouvre la voie à une reprise des flux pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et c'est l'information principale du jour. Les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. Le président américain Donald Trump est donc très attendu au sommet du G7 à Évian, en Haute-Savoie, où Emmanuel Macron espère pousser une initiative franco-britannique pour sécuriser le détroit d'Ormuz. On va revenir sur cet accord qui mentionne une réouverture complète, immédiate et sûre du Détroit, une forme donc de retour à la case départ. Analyse de David Rigoulero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique.
Il faut demeurer prudent parce que justement il y a des narratifs contradictoires. Il y a une version iranienne et une version américaine, et notamment sur la question d'Ormuz, puisque du côté américain il est admis que ça doit être une réouverture inconditionnelle, c'est-à-dire oui un retour à la situation ante, comme vous l'évoquez, avec donc la restauration de la libre circulation et évidemment l'absence de tout péage et même de frais de gestion comme avant. Par la partie iranienne, qui de son côté considère qu'on ne reviendra pas à la situation ante et qui, à minima, de toute façon, prévoit un dispositif effectivement de taxation qui n'est pas un péage à proprement parler, mais qui s'apparenterait effectivement à des frais de gestion tels qu'ils peuvent exister dans le détroit du Bosphore. Ou les Dardanelles, avec une différence de taille, c'est qu'il y a une vraie prestation de service en quille, notamment de remorquage, de sécurisation, parce que les détroits sont très étroits, justement. Et or, ça n'est pas le cas, justement, pour le détroit d'Ormuz, les armateurs n'ont jamais demandé ce type de service.
Quelles conséquences économiques cela aura si la version iranienne demeure?
Il est peu probable que la version iranienne demeure telle qu'elle, parce que de toute façon, il faut bien comprendre que c'est aussi un affichage qui est destiné à être vendu aux opinions publiques respectives. Donc il demeure un point d'interrogation, et c'est pour ça qu'il faut être prudent quand je dis qu'on n'a pas les termes du protocole en question, même si l'Ormuz est un point central, puisque c'est séquencé en deux parties, semble-t-il. D'abord Ormuz, et ensuite la question nucléaire. Mais concernant Ormuz, tout le monde part du principe qu'il doit y avoir une réouverture complète, y compris la Chine d'ailleurs, qui a fait un message par le biais de sa diplomatie, en attendant justement la restauration de la liberté de navigation. Chine, qui est un allié théorique de Téhéran.
Et qui est influente sur l'Iran, absolument.
Et qui est évidemment influente, et qui, en matière de taxation éventuelle et de droits de péage, risque d'être très rétive. C'est un euphémisme, parce que ça ferait précédent. Et ça pourrait décliner sur d'autres détroits, par exemple le détroit de Malacca, qui est hyper stratégique pour Pékin. Donc il faut attendre d'avoir les termes précis, justement, et donc on ne le saura que lors de la signature, parce que là on aura effectivement le détail, la teneur du protocole d'accord.
David Rigoulero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Malgré l'annonce de cet accord, Israël a annoncé maintenir ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée, selon le ministre israélien de la Défense. Un accord critiqué est critiqué également par le ministre israélien d'extrême droite chargé de la sécurité nationale, qui affirmait qu'Israël n'était pas lié à ces termes. Réaction française maintenant, celle de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Il s'est félicité de cet accord, mais pour lui, la situation ne doit pas faire oublier, je cite, la catastrophe qui se joue en Palestine, à Gaza et à Cisjordanie. Jean-Noël Barrot.
La situation ne doit pas nous faire oublier la catastrophe qui se joue en Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie. C'est la raison pour laquelle la réunion qui s'est tenue vendredi 12 juin à Paris est à la fois historique et essentielle. Réunion qui rassemblait des centaines d'Israéliens et de Palestiniens venus de la société civile porter un message de résistance et d'espoir, de résistance à l'idée que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix, et d'espoir, celui de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je le disais, une rencontre historique parce que pour les Palestiniens et les Israéliens, il est devenu quasiment impossible de se rencontrer, puisqu'il est presque impossible pour un Israélien de se rendre en Palestine et pour un Palestinien de se rendre en Israël. Ils se sont retrouvés à Paris pour établir une liste de recommandations et lancer un appel aux dirigeants du G7 réunis à Évian cette semaine. Et puis une rencontre essentielle car elle a permis de tracer la voie vers cette solution à deux États qui passe par le désarmement du Hamas qui doit redémarrer et avancer, et qui passe par la fin du blocus humanitaire à Gaza où l'aide doit entrer massivement pour soulager les souffrances des populations civiles, qui passe par des élections en Palestine auxquelles le président Mahmoud Abbas s'est engagé devant le président de la République et le prince héritier d'Arabie Saoudite l'année dernière. Il est indispensable qu'en 2026 puissent se tenir en Palestine des élections présidentielles et législatives. Et évidemment, recommandation essentielle, la fin de la colonisation extrémiste et violente en Cisjordanie.
Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Et que va-t-il en être de la situation au Liban ? Le président libanais espère, lui, que l'accord entre les États-Unis et l'Iran mettra un terme définitif à la guerre avec Israël. Cet accord est une opportunité pour travailler à la reprise de la souveraineté libanaise, selon la ministre française déléguée auprès de la ministre des Armées, Alice Ruffo.
S'agissant du Liban, il est temps que le Liban cesse d'être l'otage, au fond, des guerres des autres. Mmh. Et là, je crois que vraiment, on a une opportunité très importante avec les Américains, en discussion avec nos partenaires, notamment golfiques, en lien avec l'Iran, puisque nous avons gardé des canaux ouverts, pour imposer le fait que les armes se taisent et qu'on puisse travailler à la reprise de la souveraineté libanaise, c'est-à-dire au contrôle de l'État sur les milices. C'est important.
Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une série de frappes russes. Un incendie a ravagé la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev du XIe siècle et classé à l'UNESCO. Dans un tout autre volet, le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, a annoncé son premier ministre Keir Starmer lors d'une conférence de presse. Dans l'actualité en France, notre pays vit un MeToo des enfants, a déclaré la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger. Après la mort de Liana, 11 ans, dans le Gers, le 4 juin dernier, Aurore Berger a annoncé vouloir enrichir le projet de loi sur la protection de l'enfance de nouvelles mesures pénales. On l'écoute.
On a un projet de loi qui était dédié à la protection de l'enfance, vous le savez, qui sera examiné à partir du 15 juillet à l'Assemblée nationale. C'était prévu bien avant le drame que notre pays a eu à connaître ces dernières semaines. Et on a dit que dans le cadre de ce projet de loi, il y a certaines choses qu'on pourrait faire de manière supplémentaire, notamment sur la question de la sanction des auteurs. C'est quelque chose à laquelle je suis très attachée de longue date, à la fois parce que nous savons que ceux qui sont passés à l'acte, ceux qui ont violé, l'ont rarement fait une seule fois, sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont condamnés qu'à un seul titre. Je pense que dire aux Français que quelqu'un qui a violé plusieurs enfants doit pouvoir passer sa vie en détention est absolument essentiel. On a, et je crois les Français réalisent depuis quelques jours aujourd'hui, l'ampleur des violences qui sont les violences faites à nos enfants, 160 000 enfants qui chaque année subissent des violences sexuelles. Et il faut le rappeler, ces violences sexuelles, elles ont d'abord lieu, même si c'est dur à entendre et dur à dire, d'abord lieu au sein même de la famille. C'est la question de l'inceste dont on parle. Et donc on a une révolution culturelle qui est en train de se produire. C'est pour ça que je parlais moi de MeToo des enfants, parce que les enfants ont peu souvent la parole dans notre société, mais les enfants devenus adultes qui ont subi l'inceste, eux, parlent depuis des années. Et donc on a besoin aujourd'hui de les protéger.
Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Plus de 530 000 lycéens de terminale ont passé ce matin l'épreuve de philosophie, le coup d'envoi des épreuves écrites du bac. Une session marquée cette année par un durcissement de ton du ministre de l'Éducation sur l'orthographe. Un point sur le Mondial 2026, un début de compétition difficile pour la Tunisie. Les Aigles de Carthage se sont lourdement inclinés 5-1 face à la Suède hier. Ils affronteront le Japon lors de leur prochain match dimanche prochain. Et enfin, la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris a annoncé que la nouvelle année égyrienne aura lieu demain. Le jour d'Ashura aura lieu le jeudi 25 juin. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.